France Culture.
Bonjour.
En fait, je vais assez peu au musée. Je trouve compliqué d'aller au musée. J'ai pas mal fréquenté le musée d'art moderne de Beaubourg, parce qu'il y avait des toiles que je voulais voir et revoir, mais sinon j'y vais assez peu, pour une raison assez simple, c'est que j'ai l'impression de ne jamais savoir ce qu'il y a à voir. Je pense que c'est une expérience assez commune à tous les gens qui vont dans les musées, c'est-à-dire que vous voyez un tableau, en fait vous savez pas trop ce que vous voyez, donc la première chose que vous faites, c'est de lire le cartel qui dit le nom du peintre, le titre de l'œuvre, l'année, et après vous revenez au tableau, vous dites « Ah, c'est un Velázquez !» D'accord, et vous êtes content. Et en fait, vous avez vu un Velázquez, mais en fait, vous n'avez rien vu. Vous n'avez pas vu ce qu'était un Velázquez. Et vous seriez incapable de parler après. Et ça me rappelle une phrase de Malraux, comme ça, qui est assez rigolote, où il dit « Les gens vont dans les musées pas pour voir les tableaux, mais pour pouvoir dire après qu'ils ont vu un Velázquez, un Picasso, un Miro, tout ce que vous voulez. »
Elisabeth Antoine, General Curator in the Louvre's Department of Objets d'Art.
Hélène Lemot, conservator van de afdeling Oosterse Oudheden van het Louvre.
Ce masque en or a été...
Dit gouden masker is gemaakt van een extreem dunne plaat goud. Als je het werk...
Musée, la réinvention permanente. Une série de Christelle Le Polothèque et Agnès Catou. Premier épisode, visiter les musées à l'ère d'Instagram.
Vincent Delieuvin, hoofdconservator van de afdeling
schilderkunst.
What is this strange creature and what is this unusual object?
Pourquoi va-t-on au musée? Dans une récente étude, les visiteurs interrogés avaient répondu premièrement pour faire plaisir à mon conjoint. Deuxièmement, pour acquérir une expérience et des connaissances, ce que l'on peut traduire par cocher une case sur une liste. Ce désir de cocher des cases est largement alimenté par les réseaux sociaux et la diffusion des images et des selfies sur Instagram. Mais comment les musées, que Paul Valéry qualifiait de « solitude cirée », qui tiennent du temple et du salon, du cimetière et de l'école, se sont-ils retrouvés sur cette liste? Comment se sont-ils transformés et à quel prix en des lieux hautement désirables, pour lesquels il faut réserver son billet d'entrée des semaines à l'avance et être prêt à faire la queue des heures durant? Et comment font tous les autres, les musées moins connus, ceux qui n'ont pas de community manager pour faire circuler leurs chefs-d'œuvre sur Instagram et qui n'aspirent qu'à parler aux âmes des rares visiteurs qui passent leurs portes? C'est tout l'objet de cette série. Comprendre cette mutation que vivent aujourd'hui les musées en France. Attirer toujours plus de nouveaux publics, répondre aux questionnements actuels de la société, assurer leur mission de conservation et de transmission, le tout avec des dotations en baisse.
Les situations se suivent et ne se ressemblent pas.
Roxana Azimi, journaliste au Monde.
En fait, les contextes sont différents selon qu'on soit à Paris, en région, qu'on soit dans une grande ville, dans une zone rurale. Donc, les problématiques ne sont pas les mêmes. Alors, il y a certaines constantes qui sont d'ordre économique. La plupart des musées courent après l'argent. Parce que l'État n'a plus d'argent, les collectivités sont étranglées, et comme on demande aux musées d'avoir de plus en plus de ressources propres, donc leur mission première, ce n'est plus seulement de conserver, de transmettre, de faire de la pédagogie, c'est de chercher de l'argent. Et autant, quand on s'appelle le Louvre, Orsay, c'est facile, autant, dès qu'on est un musée un peu... on va dire pas du premier cercle, mais du deuxième, troisième cercle, ça devient compliqué. Alors quand on est en région, c'est simplement la croix et la bannière. On est encore plus tributaire des subventions que dans la capitale. L'autre problématique, une deuxième problématique, c'est aussi, en fait, les musées se posent beaucoup de questions sur ce qu'ils sont, ce qu'ils doivent être, sur la définition de ce qu'est un musée. Il y a eu tout un débat au sujet de l'ICOM sur ce que doit être un musée, son rôle au XXIe siècle. Et on sait bien que son rôle ne peut pas se limiter uniquement à la conservation des œuvres du passé, ni même seulement à exposer les œuvres d'aujourd'hui qui dans les années futures, feront partie du patrimoine. C'est aussi être un lieu de débat, un lieu de pensée. Et ça, c'est pas évident, parce que jusqu'à quel point est-ce qu'on peut être un lieu de débat quand on dépend de l'État ou des collectivités? Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut avoir la parole libre sur beaucoup de sujets? C'est aussi une question à se poser. Ils veulent aussi être un lieu de care, ce qu'on appelle le care aujourd'hui, c'est-à-dire de bienveillance, de soucis de l'autre, de soucis de la santé mentale. Alors tout ça, c'est pas du tout dans leur gène. Les gens qui travaillent là-bas ne sont pas forcément armés, formés à ça. Mais en tout cas, ils se disent, le musée doit être un lieu qui vous fait du bien. Alors comment faire du bien quand on est soi-même pas en super santé? Donc c'est pas évident non plus, parce que en fait c'est comme partout, quand on n'est pas soi-même très bien, on n'arrive pas à faire du bien aux autres. Donc les musées ne vont pas super bien, malgré une fréquentation de plus en plus importante, qu'il faut toujours aussi prendre avec des pincettes, parce que les chiffres, selon les calculs, ne sont pas les mêmes, selon les institutions, c'est, enfin voilà. Mais malgré les pincettes, il n'empêche que la fréquentation est en hausse. Donc ça veut dire que les gens cherchent quelque chose dans le musée, cherchent un réconfort. Donc le musée veut apporter ce réconfort, voire même plus que le réconfort habituel. Mais peut-il le faire? Est-ce qu'on doit demander autant au musée non plus? Voilà.
Ce qui est intéressant et aussi troublant, hein, c'est que le musée est devenu un lieu de mise en scène de soi.
Saskia Cousin, professeure de sociologie à l'Université Paris-Nanterre.
Pendant longtemps, le musée, c'était où on allait avec ses parents, un peu traîner, ou alors on allait parce qu'il fallait avoir été. Voilà. Donc aujourd'hui, et c'est aussi l'objectif des expositions temporaires notamment, c'est il faut avoir été dans l'expo et on se met en scène dans l'exposition. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Mais ce que les gens ressentent, c'est plus compliqué et beaucoup plus divers. C'est pas parce que vous faites un selfie que vous n'avez pas une émotion à un autre moment dans le musée, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai réalisé quand on a fait les enquêtes dans l'exposition en 2022 au Bénin. Donc il y avait des personnes qui, à la fois pour avoir des pratiques rituelles, hein, de salutations, de chants, dans l'exposition aux ancêtres qui étaient exposés, et en même temps ça les empêchait pas par ailleurs de faire des selfies, parfois de revenir trois fois habillés différemment, etc. Donc faut faire très attention, et je trouve que c'est aussi un grand apprentissage, ce séquençage de type de public auquel correspondrait un type de pratique qui est un des fondements de la sociologie de la culture et de la sociologie de la démocratisation culturelle, me paraît plus compliqué, en fait, enfin, devoir être rediscuté par rapport aux pratiques contemporaines, où on fait un selfie dans une salle du Louvre, et puis devant un magasin où il faut avoir été. Et donc, les choses sont pensées ensemble. Et d'une certaine manière, c'est aussi une bonne nouvelle, c'est-à-dire que cette hiérarchisation de la légitimité des pratiques culturelles a été fortement déstabilisée par l'arrivée massive de pratiques populaire, on va dire, de pratiques touristiques, où on fait le bateau-mouche, le Louvre, et c'est-à-dire qu'il y a moins d'importance qui est donnée au fait d'aller dans une institution culturelle. Ça n'est plus hiérarchisé comme ça a pu l'être il y a certaines décennies, où finalement on avait considéré qu'il fallait que le peuple puisse accéder aux grandes choses de la culture. Ce qui, fondamentalement, est aussi un peu déstabilisant pour les gardiens du temple, pour qui ils sont un indice parmi d'autres d'un séjour réussi, au même type que la gaufre ou les bateaux-mouches ou la tour Eiffel.
Adrien Goetz, vous êtes historien de l'art, auteur notamment du livre « Mes musées en liberté ». On voit que la fréquentation a considérablement augmenté dans les musées.
Elle augmente en nombre, mais il faudrait vraiment faire un terrain de sociologue, ville par ville, pour comprendre quelle est vraiment cette évolution. Et je pense que cette évolution est reflétée aussi grâce aux réseaux sociaux. Regardez sur Instagram, je ne parle pas des comptes officiels des établissements, des musées, mais regardez tous les gens qui mettent en ligne des photos qu'ils ont prises eux-mêmes dans les musées. C'est un regard qui n'est pas le regard d'historien de l'art. C'est pas non plus ce que la notice Wikipédia du musée va vous dire d'aller étiqueter comme les 10 chefs-d'œuvre qu'on va aller voir à Quimper ou à Strasbourg. Il y a une sorte de diffusion des images qui n'a plus rien à faire de l'autorité des gens compétents. Et au fond, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin qu'on nous prenne par la main pour nous dire « voilà le chef-d'œuvre, c'est ça que tu dois admirer ». Et les gens vont aller photographier un citron, un petit chat, une robe dans un tableau. Et c'est autre chose. Et c'est une circulation actuelle des images des musées qui échappe complètement aux professionnels des musées. Il y a une espèce de légitimation populaire. Prenez votre compte Instagram, tapez un nom de musée et vous verrez apparaître des images qui peuvent vraiment surprendre et des œuvres qui deviennent populaires comme ça.
Et vous disiez notamment dans le cas pendant le Covid,
oui.
À Chantilly, des conservateurs ont fait vivre comme ça le musée.
Absolument, ce n'était pas du tout une directive venue d'en haut. Dans le musée Condé de Chantilly, qui appartient à l'Institut de France, il y a des conservateurs qui, pendant qu'ils surveillaient les collections dont ils ont la garde pendant l'épidémie, ont fait, avec leur propre téléphone, aucune vraie stratégie, aucune technique, des petits films où Nicole Garnier montrait le diamant rose des princes de Condé. Alors elle le sortait de son écran. Mathieu Deldic commentait les meubles en ouvrant les tiroirs et en nous expliquant comment ils étaient arrivés dans les collections du duc d'Aumale, le créateur du musée Condé. Et sur YouTube, ça a été un nombre de vues absolument imprévisible. Personne ne s'attendait à ça. Pendant ce temps-là, des tas de gens bouclés chez eux refaisaient les tableaux, devenaient Marat dans la baignoire, etc., etc., mimaient les grands chefs-d'œuvre des musées en restant chez eux. Moi, je crois que les gens aiment les musées. Voilà, qu'on en est là, qu'on est arrivé à quelque chose où le musée n'est plus du tout le critère de distinction sociale qu'il pouvait être il y a 30 ou 40 ans.
Didier Fusilier, vous êtes directeur du Grand Palais RMN. Pour vous, la multiplication des images ne tarit pas le désir de voir l'œuvre originale ?
Non, parce que déjà, en fait, Instagram, c'est souvent des selfies. Donc vous ne voyez même pas tellement l'œuvre. Enfin, vous voyez plutôt la personne qui se photographie devant l'œuvre. Souvent, c'est amusant d'ailleurs de voir des images, c'est-à-dire que l'œuvre elle-même, qui est quand même le support de la photo qu'on veut faire et envoyer et poster à ses amis, etc., est flou. C'est le personnage devant, c'est-à-dire vous-même qui êtes net, enfin, c'est assez cocasse. Et donc, au contraire, je pense que ça donne vraiment envie de voir le lieu, parce que autour de l'œuvre, il y a le tralala du musée. Vous n'allez pas à Versailles comme au Louvre, comme à Montpellier ou à Marseille. Aller au Mucem, c'est pas la même chose que d'aller au musée de Strasbourg, par exemple. Donc, ce sont ces ambiances qui créent le plaisir. Donc, nous favorisons, on vient de gagner aussi de nouveaux concepts avec Alain Ducasse, par exemple, de boutiques, librairies et cafés automatiques. C'est-à-dire, quand on va avec des amis ou des enfants, en famille, dans un musée, tout le monde ne visite pas à la même vitesse. Et donc, il faut bien se retrouver quelque part. Alors, vous avez des endroits comme la Kunsthalle à Rotterdam qui sont encore plus radicaux que n'importe qui. C'est-à-dire que le bar et la boutique et les librairies sont au milieu de l'expo. Et donc, on voit l'autre qui n'a pas fini, qui regarde une œuvre, qui retourne en voir une autre. Vous voyez, tout ce qui est totalement exaspérant quand on visite à plusieurs une expo. Et là, qui est réglé, parce que du coup, vous allez vous asseoir, vous feuilletez des bouquins, vous prenez un petit café. Alors ça, moi, j'avais encore jamais vu ça. Encore un autre concept. Dire que, on s'attend pas à la fin, on s'attend au milieu. Et tout ça, à mon avis, plus on va multiplier ces possibilités d'accéder aux lieux par les boutiques, par les cafés, régler le problème du filtrage, c'est infernal aujourd'hui. Vous rentrez, il faut vous retirer toutes vos clés, votre porte, enfin, c'est invraisemblable qu'on en soit là. Et moi, je suis très attaché à cette expérience.
Didier Fusilier, à quel moment les musées sont devenus des lieux instagrammables ?
Il y a eu un tournant très précis, c'est quand notre ministre, que moi j'aime particulièrement bien en plus, Flore Pellerin, a pris une photo, alors qu'il était interdit de prendre une photo dans les musées, et elle a sorti son portable, et clac, elle a fait une photo. Et alors là, ça a été le scandale, puisqu'on interdisait à tous les gamins de le faire, mais la ministre avait le droit. Donc, elle s'excusait, elle disait non, ou elle disait à partir de maintenant, tout le monde peut prendre des photos, et c'est arrivé comme ça.
Étage 0. Ouverture.
Moi, ça me rappelle
les grandes expositions Monet, les 1 million de visiteurs, etc. Et en fait, on se rend compte que, bien évidemment, le sujet de cette exposition, ce n'est pas Monet. C'est le public.
Grégoire Bouillet, écrivain.
Dans les musées, il y a quelque chose, c'est fait pour le public. Et ça va parfois un peu loin, puisque le musée de Boston, qui possède cet énorme et très étrange tableau de la japonaise peint par Monet, donc on voit Camille, c'est la première femme de Claude Monet, qui est représentée vêtue d'un magnifique kimono, elle s'évente, elle est blonde, pour une japonaise qui est déjà un peu bizarre. Et en fait, elle est très parisienne, très aguicheuse, très accorte et sémillante. Voilà. Et le musée de Boston a imaginé une petite... voilà, ça s'appelle les Wednesday parties, donc les parties du mercredi, où il s'agissait, pour les visiteuses du public qui venaient au musée, ils avaient fait confectionner le kimono tel qu'on le voit sur le tableau, et celle qui le voulait pouvait enfiler le kimono, se faire prendre en photo en prenant la pose, genre, chacun peut devenir un chef-d'œuvre. C'est un peu grotesque, voilà, mais parce que je pense que la cible vraiment des musées, c'est pas tant les œuvres d'art que le public. Et bien évidemment, ça a provoqué des remous parce que les gens de la communauté asiatique de Boston se sont insurgés contre cette appropriation culturelle en disant mais non, c'est vraiment de enfiler le kimono et devenir un suprématiste blanc. Enfin voilà, donc il y a eu des manifestations, c'était un bordel. Évidemment, ils ont renoncé à cette animation et ils l'ont remisée au placard des animations qui ne devraient jamais voir le jour parce que dans cette histoire-là, ce qui disparaît, c'est l'art. C'est quelle était la signification de ce tableau? Pourquoi Monet l'a peint alors qu'il n'a rien à voir avec l'impressionnisme? De quelle histoire est porteur ce tableau? Moi, c'est ce qui m'a intéressé. Et je pense que ce n'est pas ce qui intéresse les musées. Mais c'est le boulot du regardeur. C'est au regardeur d'avoir une relation personnelle. Voilà, les histoires, elles sont là, sur Internet, dans les livres. Vous pouvez vraiment trouver tout ce que vous voulez. Je pense qu'il y a une espèce de confusion. Pour moi, tout ce que je demande à un musée, c'est de me montrer des œuvres d'art. Le reste, c'est mon affaire.
Il y a tellement de façons différentes d'être au musée.
Camille Brook, directrice du musée Unterlinden à Colmar.
Et le fait de se laisser faire par le musée, d'une certaine manière, de déambuler dans le musée, de laisser en fait notre regard être capté par une œuvre en particulier, de s'arrêter un moment, de poursuivre sa déambulation, de se laisser capter par une autre œuvre, sans avoir forcément ce souhait d'exhaustivité ou de tout voir, de tout, de sentir assez libre. Et oui, j'aime bien cette idée de se laisser faire par le musée. Moi, je suis aussi assez partisane, ou en tout cas, voilà, je suis pas du tout contre le musée promenade. Où en fait on vient s'extraire temporairement, en effet, d'un quotidien sursollicitant, bruyant. On rentre au musée, déjà on marche pas pareil. Le rythme n'est pas le même. L'atmosphère est plus feutrée, elle est plus calme, ou elle est différente. En particulier dans un musée comme Unterlinden, où en fait on rentre littéralement dans un cloître. Donc ça vient vraiment jouer là-dessus. C'est-à-dire que le rôle du musée, c'est de répondre le plus possible à la diversité des attentes du visiteur qui franchit sa porte. Donc oui, on a un visiteur qui a soif de savoir, de connaissance, qui veut vraiment être accompagné dans sa visite. Ben, il va prendre l'audio guide, ou le visio guide, ou le compagnon de visite, peu importe comment on l'appelle aujourd'hui. On peut aussi avoir un visiteur qui veut être accompagné, mais alors les audio guides, c'est vraiment pas son truc, mettre des écouteurs, etc. Donc il faut qu'il y ait de la médiation humaine. Et à côté de ça, on peut avoir un visiteur qui est peut-être déjà érudit, déjà connaisseur, et qui n'a pas besoin d'accompagnement et qui souhaite juste faire sa visite en expert. Donc là, il faut aussi le laisser faire. Et puis, encore une fois, des visiteurs qui viennent pour l'expérience esthétique, ou qui viennent pour découvrir le bâtiment, d'ailleurs plus que les collections, c'est aussi tout à fait possible, ça. Ben, à ce moment-là, facilitons leur déambulation avec une signalétique claire. Faisons aussi en sorte que, d'un point de vue scénographique, muséographique, certaines œuvres dans certaines salles soient plus mises en valeur, de manière à aussi guider assez naturellement leur attention vers une œuvre immanquable ou une œuvre qu'on trouve particulièrement intéressante. Voilà, chacun est bienvenu au musée, quel que soit son projet, en fait. Et j'irai même plus loin, un visiteur qui commence par une déambulation peut ensuite souhaiter revenir en disant « Ah ben là, j'ai envie d'en savoir plus sur tel et tel et tel sujet. »
Grégoire Bouillet, vous utilisez, vous, ce qu'on appelle maintenant les compagnons de visite?
Pas du tout.
Les audioguides, les...
Pas du tout. Je veux pas du tout qu'on captive ou capture mon regard ou mes sensations. Je veux pouvoir avoir un accès personnel. Si je ne vois rien, si je n'éprouve rien... tant pis, si jamais je veux m'informer sur un tableau en particulier, je rentre chez moi, il y a Internet, je peux trouver les informations. Donc j'essaye au maximum d'avoir une expérience visuelle et pas du tout une expérience de langage. Et pour moi, le problème des musées, notamment, c'est que le langage surdétermine la vision qu'on peut avoir d'un tableau. Et ça m'agace, j'ai pas envie... Quand je suis allé à l'Orangerie, par exemple, j'y suis allé, c'était avec ma fille, c'est elle qui voulait voir les nymphéas de Monet, et donc j'y suis allé avec elle, mais moi, je n'avais jamais été les voir. Donc je pars avec plein de mots en tête, hein, féerie picturale, méditation intérieure, ode au pacifisme et tout ça, donc j'ai tous ces mots-là en tête quand je vois le grand panneau de l'Orangerie. Et le sentiment que j'ai à ce moment-là ne coïncide pas du tout avec les mots que j'ai en tête. Quand je dis à ma fille que pour moi, il y a quelque chose de morbide et de mortifère dans ces grands panneaux, elle me regarde, elle me dit « Mais t'es complètement taré, papa. » Bah oui, parce que elle est tellement nourrie, et moi aussi, de mots positifs sur les nymphéas de Monet, sur la féerie picturale, l'impressionnisme et tout ça, que si jamais vous avez une émotion contraire à ça, vous allez avoir beaucoup de mal à la justifier, parce que l'environnement fait que, on n'a pas accès. Donc les mots sont vraiment un grand piège. Et je m'en méfie, donc je prends surtout pas d'audio-guide, surtout pas, non. Désolé.
Lancement du scan de l'œuvre. Mosaïque représentant une personnification du vent. Entrée des données. Date, 3e siècle après Jésus-Christ. Lieu, dans l'Empire romain. Personnage, un riche citoyen fait visiter sa toute nouvelle villa. Remontée dans le temps activée.
Alors si j'ai bien compris, vous avez mis de la mosaïque partout sur le sol.
Bien sûr, dans les 6 pièces, même dans le bassin d'eau. Passons à la plus belle pièce, la salle à manger. Entrez. Et voilà, c'est splendide, n'est-ce pas ?
Nous avons une web application.
Annabelle Ténès, directrice du musée Louvre-Lens.
Qui est téléchargeable et qui permet notamment d'avoir des commentaires audio, donc c'est une version plus contemporaine de l'audioguide, d'avoir aussi l'ensemble des traductions en langue étrangère, ce qui permet au public étranger d'avoir l'ensemble des traductions en plusieurs langues, parce que géographiquement, on peut pas mettre autant de cartels qu'on voudrait, bien sûr. Ça permet d'avoir plus de langues, le plus de langues possible. Et il faut savoir que par rapport à ça, on a beaucoup réfléchi à l'inégalité de l'accès aux smartphones. Donc il y a des smartphones en location pour ceux qui n'auraient pas les moyens d'avoir un smartphone pour avoir accès à l'ensemble de la web application. Ça, c'était quelque chose de très important pour nous, parce qu'en fait, l'accès aussi au numérique, notamment via les smartphones, il est très lié aussi à un accès économique. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons pensé pour que personne ne se sente exclu aussi de l'accès aux informations qui passent par la web application, par le numérique.
Het Louvre heeft het geluk dat het over de vier jaargetijden van Archimboldo beschikt. Dat is vrij uitzonderlijk. We zijn een van de weinige musea ter wereld die alles...
Le numérique est assez peu présent au musée Unterlinden aujourd'hui. C'est un outil qui fonctionne très bien auprès du jeune public, mais c'est un outil qui distrait aussi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un écran ou un dispositif tactile dans une salle, le jeune public s'y dirige automatiquement, sans presque regarder ce qu'il y a autour. Donc pour moi, c'est un outil qui peut être extrêmement pratique, extrêmement riche, mais à manipuler avec précaution et avec parcimonie. C'est un outil de médiation. Donc en termes de médiation, il ne faut pas réfléchir à partir de la forme de l'outil, il faut réfléchir à partir du but de la médiation. Qu'est-ce qu'on souhaite transmettre ? Et ensuite, on cherche ce que j'appelle moi le juste dispositif ou le juste outil pour transmettre ce que l'on a défini. Donc parfois, le numérique est en effet l'outil le plus approprié, parfois non.
Nous avons fait l'expérience sur deux expositions de l'année dernière aussi de la réalité virtuelle. Une sur un mode explicatif pour l'exposition Champollion, une autre sur un mode plus créatif, quand je dis créatif, comme une sorte d'histoire inspirée des expositions pour l'exposition Monde souterrain et animaux fantastiques. Donc c'est des questions que nous avons en tête, mais toujours avec cette idée d'accompagner la rencontre directe avec l'œuvre et d'offrir des accès supplémentaires, mais qui toujours sont au service de l'expérience directe que permettent les musées.
L'immersif, c'est la nouvelle tarte à la crème dans tous les musées.
Roxana Azimi.
Il n'y a pas un musée qui ne réfléchisse pas à comment faire venir un nouveau public. À la fois un nouveau public qui n'est pas habitué aux codes des musées, et puis un public jeune qui, lui, trouve le musée ennuyeux et qui est très habitué au digital, aux jeux vidéo, donc à quelque chose d'assez immersif. Donc on essaye de les faire venir de cette manière. Il y a eu beaucoup d'expériences. Pour l'instant, je trouve qu'on tâtonne là-dessus. Il y a eu des expériences en réalité virtuelle, en VR, qui étaient intéressantes. Il y a d'autres, c'était vraiment... Alors là, pour le coup, c'est de l'immersif pour de l'immersif. C'est un peu du son et lumière. C'est sans intérêt. Mais je pense que là, les musées se cherchent sur ce plan-là. Je ne leur jette pas la pierre de chercher un nouveau public et pour le trouver, d'essayer de les harponner avec ce que ces jeunes connaissent et ce qu'ils apprécient.
Mais ça marche ?
Certaines expériences marchent, oui. Par exemple, l'expérience de réalité virtuelle qu'avait faite le musée d'Orsay avec les impressionnistes, ça avait très bien marché. C'était pas un élément en soi, c'était un dispositif qui était proposé en même temps que l'exposition sur le centenaire de l'impressionnisme. Et ça a fait carton plein.
Et c'était quoi alors exactement ? On pouvait se balader
avec un casque de réalité virtuelle qu'on utilisait et on était plongé pendant 45 minutes dans une promenade. C'était l'exposition des impressionnistes chez Nadar, à l'atelier du photographe Nadar. Et avec des éléments contextuels, de la documentation, c'était pas mal fait. Ça a eu du succès. Mais après, c'est très 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 coûteux, donc tous les musées ne peuvent pas se le permettre.
J'ai beaucoup apprécié notamment la scène où on arrive au Havre avec Monet, on le voit en train de peindre et là on a l'impression de rentrer dans le tableau et c'est ça qui était formidable.
Aujourd'hui, les musées subissent une concurrence qui est celle de ces espaces immersifs complètement fabriqués.
Adrien Goetz.
Où on est plongé dans des carrières de lumière ou dans des vieilles usines où on vous projette des tableaux de Klimt et qui au fond vous écartent de l'œuvre d'art. C'est présenté comme des initiations à l'art. Et quand vous avez vu un tableau de Klimt transformé en rideau de douche avec une musique d'accompagnement pendant une heure, vous êtes forcément déçu quand vous allez à Vienne voir un Klimt en vrai. Donc ça, c'est un risque. Mais je crois que les musées doivent quand même tenir compte du nombre de visiteurs qui vont voir ça. C'est un public qui devrait aller naturellement vers le musée. L'entrée, c'est à peu près le même prix. Donc il ne faut pas dire que l'un est plus démocratique que l'autre, ça n'est pas vrai. Et en réalité, ce public-là doit comprendre qu'il peut trouver au musée des choses qui sont de cet ordre. Alors à l'orangerie, on est véritablement, on entre dans l'œuvre et on est parfaitement dans la volonté de l'auteur. Et là, on est véritablement dans la première expérience immersive de l'histoire de l'art.
28 décembre 1984.
Le journal vous est présenté par Ralph Mato.
À l'Orangerie, la réouverture de la grande salle des Nymphéas de Monet. Et au micro de France Inter, aujourd'hui, Ségolène Bergeon, conservateur, chef du service de la restauration des peintures des musées nationaux.
Les Nymphéas étaient grises, ternes et sales. Et il a fallu la collaboration de plusieurs laboratoires. Car en restauration, même ce que l'on appelle simplement un petit nettoyage, ça n'est jamais un petit nettoyage simple.
Alors là, c'était une nécessité absolue. Car il y avait eu notamment des dommages de guerre, un obus qui avait traversé la salle.
5 obus, je crois.
Oui, qui ont percé les murs sur lesquels les Nymphéas sont des œuvres immobilières, parce qu'elles ont été, les toiles qui ont été peintes par Monet dans l'atelier de Giverny, ont été transportées et collées, on dit marouflées en termes de technique, sur les murs. Par conséquent, maintenant, les Nymphéas doivent vivre la vie du bâtiment.
Le public, comment réagit-il à cette réouverture des Nymphéas ?
Quantitativement, en tout cas, j'étais assez sidéré, il y a beaucoup de monde.
Oui, d'une part, parce qu'elles sont fermées depuis 1977, depuis le début des travaux, donc ça fait déjà presque 7 ans. D'autre part, parce que je crois que le phénomène impressionniste est encore un phénomène très bien ressenti dans le grand public. Donc, une peinture aussi exceptionnelle. En plus, ce ne sont pas seulement des tableaux, c'est un espace impressionniste. Je crois qu'il entre là tout un... on baigne, on est un petit peu dans une sorte de prière, je crois. Il y a quelque chose qui est un peu plus que l'admiration d'un tableau.
Pour moi, les Nymphéas sont dans la scénographie, dans l'installation voulue et voulue expressément par Monet. C'était toute une histoire pour les installer à l'Orangerie par Clémenceau. Mais ce qui était intéressant, c'était de découvrir, pour moi, Monet, Et je découvre en fait que non seulement il a inspiré tout l'expressionnisme abstrait américain, hein, les Pollock, Saint Francis, de Kooning et tout ça, mais aussi c'est la première installation en art contemporain, on peut le dire, puisque c'est un dispositif qui est prévu non pas pour que le tableau soit accroché au mur d'une maison, mais exposé dans un musée. Donc non, le dispositif fait pour beaucoup, bien sûr.
Oui, parce qu'il y a une sorte de...
D'immersion. Enfin, voilà, il disait ça d'ailleurs, que c'était une immersion au fil de l'eau. Et d'ailleurs, le sentiment qui est très intéressant et que produit justement cette installation, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a à voir dans les nymphéas parce qu'on ne peut jamais embrasser le tableau d'un seul regard. C'est-à-dire que quand vous regardez un panneau, vous en avez un dans le dos et vous en avez quatre dans la pièce à côté. Donc, en fait, c'est une œuvre qui échappe au regard en permanence. Qui fait qu'on ne sait jamais très bien où se situer. On est au milieu de cet aquarium, hein, parce qu'il y a quelque chose de l'aquarium, et on ne sait pas quoi regarder. Et je pense qu'il a poussé à l'extrême le fait que quand on va dans un musée, on ne sait pas ce qu'il y a à voir.
Ben, le Monet de l'Orangerie, on le comprend aujourd'hui autrement, parce qu'on a eu les grands Américains de l'après-guerre, on a vu Roscoe et Pollock, donc... On a le sentiment que Monet a opéré une révolution beaucoup plus radicale que la révolution impressionniste de 1874. C'est-à-dire qu'on n'est plus devant un tableau encadré, mais on est dans un espace qui est un espace de peinture et qui nous implique dans l'œuvre. Notre regard fait partie, d'ailleurs, observer les visiteurs dans cette salle. Il y en a qui se mettent assis en tailleur, il y en a qui sont... Certains entrent en lévitation. Bon...
Je découvre en fait que les œuvres d'art ont un inconscient. C'est vrai que, de façon consciente, Monet a toujours dit que, voilà, il peignait la nature, l'instant présent, l'instantanéité, le reflet de la lumière sur les objets, etc. Et de façon consciente, c'est absolument vrai. Mais il y a un inconscient des œuvres d'art. Et il se trouve que dans l'émotion que l'on peut avoir pour un tableau, je pense que l'inconscient de l'œuvre rencontre l'inconscient du regardeur. C'est ça qui se passe. Sinon, il ne se passe rien. C'est juste dans un rapport conscient. Voilà, on a vu un Monet, je suis content, et ça correspond bien à ce que tout le monde dit de Monet. Et voilà, il n'y a pas d'histoire, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que si vous allez au musée, et d'un seul coup, vous avez une émotion. Et c'est là où il se passe quelque chose. C'est là où, je crois, il y a une expérience visuelle. Voilà. Mais sinon, ce n'était pas du tout préparé. Je m'attendais à voir quelque chose de très positif, une féerie impressionniste, la nature, l'ode, la couleur, la lumière et tout ça. Et en fait, d'un seul coup, je vois ça et je dis, ce n'est pas du tout ce que je croyais que c'était. Et l'émotion que j'ai à ce moment-là est une émotion plutôt négative. Il y avait du tragique, il y avait du deuil, il y avait du chagrin, il y avait du morbide. Enfin voilà, ce n'était pas joyeux. Et vraiment, dans le temps de l'exposition, j'étais là, je déambulais, parce qu'on longe, on ne sait pas du tout où se placer à l'Orangerie. On se recule, on se rapproche, c'est très troublant comme expérience. Et j'ai pensé vraiment, et je l'ai dit à ma fille à ce moment-là, je pense qu'il y a un cadavre planqué dans les nymphéas. Et le livre est venu de là. C'est-à-dire que s'il y a un cadavre, à ce moment-là, je vais enquêter. Parce que de deux choses l'une, ou bien je suis tout seul à penser ça, et je suis taré, et il faut que j'aille me faire soigner. Et c'est une éventualité que je ne peux pas exclure. Et la question, c'est est-ce que le sentiment que j'ai rencontre quelque chose de réel qui existe, qui appartient réellement au tableau? Donc il y avait enquêter sur mon sentiment et enquêter sur y a-t-il réellement des cadavres dans les nymphéas? Monet a-t-il enterré quelque chose ou quelqu'un dans les nymphéas? Et toute l'enquête m'a conduit à montrer que oui, il a enterré énormément de cadavres, dont un en particulier, mais ça, on oublierait ou pas, quoi.
Pour connaître la suite, il faut lire le livre de Grégoire Bouillet, Le syndrome de l'orangerie. Mais en attendant, puisqu'on parle de santé mentale, revenons à cette nouvelle mission qui incombe au musée depuis ces dernières années, le Caire. Ou comment le musée veut prendre soin de ses visiteurs et faire en sorte que tous les publics se sentent bien accueillis, avec une attention toute particulière portée aux enfants. Ce qui est en soi une petite révolution puisque cette partie de la population, potentiellement bruyante et turbulente, a longtemps été indésirable, voire même interdite d'entrer dans les musées.
Effectivement, il s'est passé quelque chose d'assez fondamental. Ce que vous me dites là me fait penser à une anecdote que raconte souvent un de mes collègues dans un musée en région.
Émilie Girard, présidente de l'ICOM France.
Qui dit que quand il est arrivé à son poste, la première chose qu'il a demandé aux agents d'accueil, a été de dire arrêtez de dire chute aux enfants et alors à les empêcher de courir. Ça peut paraître rien, mais je trouve que c'est assez symptomatique du rapport qu'on peut avoir au musée et qui change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le musée n'est plus forcément un lieu, une sorte de sanctuaire dans lequel on rentre silencieusement, où on est là pour contempler, pour recevoir une sorte de révélation artistique. Mais on est plus dans une dynamique de musée comme lieu de vie. Ça, c'est un terme qui revient aussi beaucoup dans nos échanges. C'est-à-dire comment donner envie de rentrer, comment permettre au public de s'approprier l'espace, faire comprendre que ces collections, ils peuvent se les approprier, ils peuvent les lire avec leur regard, qui n'est pas forcément un regard d'expert, que ces collections, elles sont à eux. On le voit aujourd'hui, quand on rénove un musée, ben on pense à des choses aussi simples que des tables allongées dans les toilettes pour changer vos petits bébés, des espaces pour faire des temps de pause aussi dans les parcours. Ça, je crois que c'est de plus en plus demandé, notamment pour des publics qui ont des besoins spécifiques, qui ont besoin de pouvoir s'isoler, ou même simplement des familles. On est nombreux à en avoir fait l'expérience que de visiter un établissement, parfois de grande taille avec des petits, bah ça oblige à faire des pauses, à faire redescendre parfois un peu la tension. Donc aujourd'hui, oui, cette question du care, donc du prendre soin et du cure qui va jusqu'à la guérison, finalement, on soigne à travers le musée, la muséothérapie, qui est alors pas une pratique de charlatan, mais de voir comment dans des processus de guérison, aller au musée peut participer à une réappropriation de soi, de son corps, de son bien-être. Et les musées réfléchissent beaucoup, beaucoup à ça. C'est un mouvement qui vient du Canada, où a été inventé le musée sur ordonnance pour accompagner des patients dans un processus de guérison, pour leur amener du mieux-être. Et cette réflexion, elle est vraiment de plus en plus présente et elle irrigue vraiment notre réflexion sur la remise à jour de nos parcours de visite, sur tous les éléments annexes à la visite qui peuvent être proposés aux visiteurs aujourd'hui.
Laissez votre corps prendre la posture de confort.
27 novembre 2023.
Observez cette jeune fille, sa concentration.
La médiatrice culturelle amène son auditoire à centrer son attention, comme la dentelière sur son ouvrage. Le chef-d'œuvre de Johannes Vermeer est ici un objet de soin des troubles psychiques.
La question aussi du care, comme on dit dans notre jargon, du musée qui prend soin des gens.
Amandine Royer, conservatrice des arts graphiques au musée de Besançon.
On la traite plutôt à travers l'action culturelle. On a des séances de yoga au musée. Nous avons dans l'équipe une personne qui est chargée de ce qu'on appelle les publics empêchés ou éloignés de la culture, qui travaille très régulièrement avec l'hôpital, avec les EHPAD, avec les associations de soutien aux migrants, avec les services pénitentiaires, avec les services sociaux, le CCAS, Centre communal d'action sociale de la ville. On a une chargée des publics aussi qui est consacrée à tous les publics en situation de handicap, pour lesquels on crée régulièrement des documents de visite, on fait des visites en langue des signes. Donc voilà, ça passe par tout un tas d'activités ou d'actions qui font partie du quotidien, en fait, du travail au musée.
Didier Fusilier, le Grand Palais RMN se dit engagé et inclusif. On a vu que la question du care était de plus en plus présente dans les musées sous des formes assez différentes. Mais est-ce que cela se traduit pour vous dans le quotidien des musées? C'est-à-dire, du point de vue du personnel, qu'il soit conservateur, gardien, personnel de ménage, est-ce que c'est un sujet important pour vous à la RMN?
Ben nous, l'accueil du public, vraiment prioritaire pour nous de toute façon, c'est-à-dire qu'on soit bien accueilli, qu'on trouve les services quand vous avez un bébé, que vous soyez pas gêné avec ce bébé, qu'on ait des petits hamacs, vous voyez, enfin tout ça, bon déjà ça c'est la base.
Oui. Et là je parlais plutôt du point de vue du personnel.
Ah, bah oui, mais du coup, il vous faut le personnel qui soit capable de comprendre ça, déjà, de pouvoir répondre à des attentes de personnes à mobilité réduite. Parfois, c'est très, très compliqué, quand vous êtes en chaise, de vous déplacer d'une salle à une autre. Donc voilà, enfin, tout ça, enfin, dans la philosophie du care, effectivement, du bien-être, du soin qu'on doit apporter aux autres, c'est une de nos préoccupations, en tout cas, ça c'est sûr.
Le musée se veut un lieu de réconfort, mais pas en premier lieu pour ceux qui y travaillent. C'est un très grand paradoxe, hein, c'est-à-dire c'est...
Roxana Azimi.
Qu'il soit fonctionnaire ou qu'il soit contractuel ou qu'il soit personnel externalisé, pour aucune de ces trois catégories, la question de la bienveillance n'entre en jeu. Alors que le discours officiel, c'est celui de la bienveillance, c'est indéniable.
Et de l'inclusivité ?
Ah oui, de l'inclusivité, du bien-être, du souci d'autrui... Mais ça ne s'applique pas forcément aux agents. Et puis bon, le musée, c'est devenu aussi un lieu, enfin surtout les très grands musées, c'est un peu des villes dans la ville, donc c'est un peu des micro-sociétés qui sont très emblématiques de nos sociétés, où on assiste à une ubérisation de l'emploi, à une précarité de plus en plus grande. Donc les gens qui vont travailler dans ces musées sont tout feu, tout flamme, ils ont, enfin, c'est des métiers passion, comme on dit, pour lesquels on est prêt à avoir un salaire de misère, des horaires extensifs, des conditions de travail pas optimum, puis à un moment ça craque, comme dans la société, voilà.
Oui, vous avez fait notamment une enquête, Roxana Azimi, sur la sous-traitance, qui crée vraiment quelque chose de particulier, c'est-à-dire que les agents de sécurité ou les médiateurs, ou le personnel de ménage également, n'ont pas les mêmes salles de pause que les autres.
Absolument. Enfin, là, c'est comme si c'était c'est vraiment tout le monde. Dans la même société, dans le même établissement, il y a un deux poids, deux mesures. Les gens, vous ne les identifiez pas, ils ressemblent à tous les autres agents. Ils ont les mêmes uniformes, sauf que ils n'ont pas les mêmes revenus, ils n'ont pas les mêmes contrats, ils n'ont pas les mêmes avantages, ils n'ont pas les mêmes durées de pause, ils n'ont pas les mêmes salles de pause, rien n'est identique.
Conservateur du patrimoine, restaurateur, restauratrice, tous les agents de médiation qui, à mon avis, font partout un travail formidable dont on ne mesure pas l'importance.
Adrien Goetz.
L'importance pour la jeune génération, l'importance pour la transmission, et qui sont pour moi des héros. Les conservateurs du patrimoine réussissent un concours extrêmement difficile. Il y en a 20, 25 chaque année, toutes spécialités confondues. Les polytechniciens, il y en a 300 chaque année sur les Champs-Élysées. Les conservateurs, c'est le concours le plus difficile pour, finalement, des salaires presque aussi misérables que ceux des universitaires. Je sais de quoi je parle. Et c'est vraiment des gens qui ont des vocations. Parce qu'on vit encore sur certains clichés qui étaient peut-être tout à fait d'actualité à l'époque où Bourdieu parlait des musées. C'est l'idée que les musées sont réservés à une élite, qu'il faut faire partie de familles où on a déjà en héritage des livres, une culture et des traditions. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça que ça se passe. Quand on va dans les musées, on se rend compte qu'il y a un vrai brassage de classe d'âge, une égalité homme-femme qui saute aux yeux. Pas dans ceux qui y travaillent, je parle des visiteurs. Et là, dans mon livre sur les musées, j'ai fait quelques descriptions de moments qui m'ont paru très parlants. À Montauban, l'inauguration du musée Ingres-Bourdel rénové, c'était il n'y a pas très longtemps. Et là, c'était une vraie fête de la ville, où il y avait, sous une grande tente blanche à côté de l'ancien palais épiscopal qui est devenu le musée, il y avait toute la population de Montauban. De l'équipe de rugby jusqu'à la pharmacienne qui et tout le monde fêtait le musée. Et il y avait aucune idée d'élitisme ou d'exclusion. Ça se sentait. C'était pas uniquement les édiles, la municipalité, c'était vraiment une fête populaire avec des gens qui étaient très intrigués parce qu'ils allaient découvrir dans leur musée rénové et transformé. Ou alors autre souvenir, les nocturnes du musée Fabre à Montpellier. Ça s'appelle « Fabre n'est pas couché », c'est une fois par semaine. Et là, les gens vont se promener au musée, ils se donnent rendez-vous au musée. C'est pas du tout dans l'idée « on va apprendre quelque chose, c'est une obligation, il faut avoir vu telle expo » parce qu'on nous en a parlé sur France 3. C'est vraiment un lieu de rencontre, d'amitié, de drague, de petits groupes qui arrivent et qui repartent. On va passer trois quarts d'heure au musée Fabre et ensuite on prend un verre dehors. J'ai l'impression qu'il y a un usage du musée qui s'est transformé depuis pas si longtemps que ça, depuis peut-être une petite dizaine d'années, et dont, semble-t-il, les organes centraux du ministère de la Culture n'ont peut-être pas complètement pris la mesure. Ils vivent toujours dans l'idée qu'il faut amener le musée vers le public, et au fond, qu'il faut que les grands établissements, les grands paquebots parisiens, mettent en dépôt des œuvres. Actuellement, c'est le musée d'Orsay qui place dans différents musées des œuvres qui renvoient aux mutations, aux changements climatiques. Donc on a des scènes d'inondation par Sisley, des choses... Enfin bon, je pense que ça ne sert à rien. Pourquoi, quand la ministre de la Culture inaugure la cité du patrimoine et de l'accordéon à Tulle, dit-elle, et c'est dans Paris Match qu'on disait ça, vous avez bien fait d'appeler ce lieu une cité, car la cité s'est ouverte et les musées, c'est toujours un peu sous cloche. Fin de citation de la ministre de la Culture.
Récemment ?
Oui. Oui, bien sûr, c'était il n'y a pas très longtemps. Donc on vit encore, à Paris, je pense, sur une fausse idée de ce que sont les musées. C'est une idée qui aujourd'hui date beaucoup. Je pense qu'il y a eu 30 ans de travail des enseignants, des guides conférenciers, des ceux qui s'occupent des auditoriums, des musées. Il se passe plein de choses. Il y a des concerts, il y a des rencontres, il y a des présentations de livres. Les musées sont des lieux en mouvement. Et ça me paraît vraiment important et encourageant.
C'est un petit livret pour enfants.
Oui.
Est-ce que vous avez un petit crayon de bois là ? Je le ramenais à la fin. Oui, j'ai l'habitude. Oui. Merci.
En fait, l'aventure artistique au Louvre-Lens, elle est toujours complètement humaine.
Annabelle Ténèze.
Il faut savoir, et ça c'est rarissime, qu'un tiers de l'équipe permanente du musée se consacre au public. C'est une proportion assez inégalée pour une institution culturelle, aussi parce que nous avons moins de gestion de collection qu'une autre institution, mais c'est quand même un choix très fort.
Et, c'est-à-dire des gardiens, des médiateurs
Alors, je parle des médiateurs. Je parle vraiment de ce que nous, on appelle les médiateurs, les chargés de projets de médiation, c'est-à-dire aussi bien des gens que vous allez voir dans les salles parler au public, mais aussi des gens qui vont aller en dehors du musée à la quête du public. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, une partie de l'équipe de médiation était au centre commercial au shopping à Noyelles-Godault, qui est un des plus grands centres commerciaux du territoire, pour proposer des ateliers et également expliquer le musée aux visiteurs du centre commercial pendant la semaine de vacances pour inciter les personnes à venir au musée. Et donc, il y a une conviction qui vraiment... est présente dans tous les membres de cette équipe et pas uniquement dans l'équipe de médiation, c'est que chacun et chacune peut apporter un regard aux œuvres d'art. Et qu'en fait, on a tous un regard sur les œuvres d'art, qu'on les regarde tous avec notre histoire, notre propre expertise. Quand je dis notre propre expertise, c'est que par exemple, dans les cartels de la Galerie du Temps, il y a des étudiants en esthétique. Esthétique, je parle esthétique maquillage. Des étudiants en métallurgie. Eh bien, ils regardent forcément certains objets différemment de nous et ils ont quelque chose à nous apporter par leur regard. Et donc il y a cette idée évidemment que nous on leur apporte expertise histoire de l'art, eux ils apportent autre chose, un autre regard. Et cette expertise, pour la nouvelle Galerie du Temps, on l'a poussée au point où chaque œuvre a deux cartels. C'est-à-dire un cartel en texte d'histoire de l'art, un cartel en images, enfin en texte et en images, travailler avec une illustratrice qui nous a fait un travail incroyable. Et en fait, ce cartel, il reflète le regard des 200 habitants et habitantes qui ont travaillé avec les équipes de médiation pendant plus d'un an à écrire leurs ressentis et leur analyse. Notamment, je pense, avec l'association Femmes en Avant de Liévin, qui est une association de femmes de quartier engagées et qui analysait aussi bien la présence des artistes femmes que la représentation des relations hommes-femmes dans la galerie. Et ça s'indignait, ça riait, etc. Et ça dit vraiment que l'art, c'est pour tous et toutes. Et c'est pas qu'un mot, en fait. C'est pas qu'un mot, c'est pas qu'un précepte. C'est vraiment quelque chose qu'on peut vivre. Et c'était vraiment une belle aventure qu'on veut poursuivre.
Là, ça, c'est la version cartel pour enfants, là, ceux-là ?
Oui.
D'accord.
Et qui sont toujours sur la question des émotions.
Et qui les a écrits, ceux-là ?
Ça, c'était pas participatif. Voilà, non. Et peut-être qu'on peut aller aussi là-bas pour voir un cartel danser.
Talia Haussmann, vous êtes médiatrice conférencière, notamment au Musée d'art moderne de Paris et à la Bourse de commerce Pinault Collection. En quoi consiste votre travail exactement ?
L'idée de mon travail, c'est vraiment d'accompagner les publics à regarder les œuvres différemment,
à travers les collections effectivement du Musée d'Art Moderne et les collections de François Pinault. Il y a des formats plus habituels, disons, des visites assez classiques, une heure et demie à travers les collections ou dans les expositions temporaires créées sur mesure pour ces différentes institutions et quelque chose de plus nouveau, disons, qui serait la médiation postée en salle. L'idée, c'est qu'on soit au plus près des publics, à disposition en quelque sorte, de leurs questions la plus lambda, classique, à vraiment la compréhension de l'institution, pourquoi l'œuvre est arrivée jusqu'ici, pourquoi elle est exposée plutôt qu'une autre, pourquoi cet artiste plutôt qu'un autre. Donc on est vraiment face à des publics voilà, qui sont hyper différents. Enfin, moi, ce matin, j'étais avec des jeunes, a priori, ils n'étaient jamais venus au musée, quoi. Et même peut-être pas souvent à Paris, ou alors des gens à la bourse qui ont une carte de visite et qui viennent voir toutes les expositions, voire qui viennent les voir plusieurs fois. Donc il y a vraiment un discours qui doit être parfois pointu, précis, détaillé sur les œuvres et les artistes, une connaissance globale de leur parcours, etc.
Justement, sur ces différents publics que vous rencontrez, vous savez pourquoi ils viennent au musée ?
Ben, pour ce qui est des publics scolaires, du champ social, ils viennent parce qu'on les accompagne, qu'il y a des structures associatives, culturelles, scolaires, académiques, etc., qui leur proposent la venue au musée et qu'il y a des prix qui sont adaptés évidemment à ce type de public, des offres particulières. Pour ce qui est des publics plus individuels, c'est des publics souvent qui sont des habitués, qui viennent régulièrement au musée. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour avoir travaillé dans différentes institutions, ce n'est pas exactement les mêmes publics qui viennent à la Bourse ou qui viennent au Musée d'Art Moderne. Ils ne viennent pas voir la même chose. Il y a quand même beaucoup de gens, par exemple, à la Bourse qui vont venir pour l'architecture, pour le lieu, pour cette espèce d'adaptation du lieu à une architecture contemporaine créée par Tadao Ando, qui est peut-être une des premières œuvres aussi du lieu, avant les œuvres de la collection. Et puis au Musée d'Art Moderne, c'est aussi beaucoup des habitués, de l'art, des avant-gardes, modernes, c'est pas exactement la même chose.
Didier Fusilier, la manière dont les visiteurs ont investi l'espace du musée a beaucoup changé ces dernières années. La circulation est beaucoup plus libre, loin de l'image du musée très compassé avec ses interdits, où il faudrait adopter le bon comportement.
Oui. Mais c'est bien des endroits où il faille être respectueux des autres, pas gêner la visite. Mais on parle toujours des enfants, mais vous avez beaucoup de personnes infernales quoi, qui vous lisent tous les cartels, qui se posent devant l'œuvre et tant qu'elles sont pas parties et qu'elles n'ont pas lu jusqu'à la dernière ligne, donc elles sont plus âgées et donc ça c'est plus infernal pour moi que les enfants.
Effectivement, il y a une liberté qui est hyper agréable pour nous, en tout cas dans notre métier, de se dire on peut faire ce qu'on veut. Enfin, moi, c'est des questions que je pose régulièrement à mes supérieurs, de m'assurer qu'effectivement, on peut prendre de la place, on peut faire du bruit. Et d'ailleurs, quand on fait les règles avec les enfants au tout début des visites, moi, je dis toujours qu'on peut parler. Et j'ai tendance à parler hyper fort, et je ne me prive pas de parler hyper fort, parce qu'on est là et on n'est pas là pour se cacher devant les œuvres qui nous impressionnent. Et que c'est très agréable de pouvoir, créer du mouvement aussi dans les espaces d'exposition. Et encore avant-hier, je faisais une visite avec des enfants qui avaient fait une heure de hip-hop devant une toile de Matisse. D'autre part, la nouvelle offre qui, j'ai l'impression, émerge de plus en plus, c'est une offre qui serait dédiée au public, pour le coup, tout petit, les 1-3 ans, les crèches. Et ça, vraiment, de plus en plus, c'est quelque chose que nous, on fait en tant que médiateurs, médiatrices, soit à travers des visites assez classiques, visites ateliers, parce que comme ils sont tout petits, on peut pas non plus leur tenir un monologue de 1h30, ou alors, ce qu'on fait dans divers endroits, c'est les visites comptées. Et ça, c'est des choses qui marchent de plus en plus, enfin, en tout cas, qui sont de plus en plus mises en place par les institutions. Évidemment, à titre personnel, je comprends qu'on puisse avoir le besoin de se plonger dans les œuvres. Et enfin, moi-même, si j'étais dans une expo, je pourrais comprendre qu'à certains endroits, ça m'énerve qu'il y ait quelqu'un qui vienne hurler pour raconter des histoires à des enfants. Et en même temps, je comprends pas comment il y a des gens qui puissent... Enfin, parce que ça m'arrive souvent, des gens qui me disent de parler moins fort. Et je comprends pas. Enfin, je suis avec des enfants. Enfin, je veux dire, au pire, ils font demi-tour, ils iront voir la toile de Matisse après. Enfin, je veux dire, c'est pas très grave. Mais effectivement, il y a quand même cette invitation à montrer que les publics sont là, quoi. Et c'est, il me semble, comme ça qu'on réactive les imaginaires et qu'on fait vivre les œuvres aussi, quoi. Pour ce qui est du métier en général, Je pense que tout le monde est tellement content que le métier se développe. Quand je parlais de, voilà, de visite guidée classique à la médiation postée, en permanence, on a des remerciements de notre présence, qui n'est pas obligatoire, mais qui est inclus dans le billet. Et ça, c'est vraiment... tout le monde est ravi, quoi, du complément qu'on apporte, du discours. On est moins peut-être obligé de lire aussi les cartels. C'est de l'ordre de l'échange, en fait. L'idée, c'est de rester dans un rapport qui est peut-être un peu moins hiérarchique que ce qu'il a été dans le métier. De vraiment de dire qu'est-ce que vous voyez, en fait. Et à partir de là, on échange, on discute, on apporte. Et je pense que c'est à ce moment-là que le regard peut changer, mais aussi parce que, en fait, en regardant, ils peuvent trouver aussi beaucoup de choses.
En fait, ce que vous dites me fait penser à un livre que j'adore, qui est un livre d'Ariane Leader, d'un psychanalyste. Et ce livre, c'est « Ce que l'art nous empêche de voir ».
Grégoire Bouillet.
Et il part du vol de la Joconde en 1911. Vous savez que la Joconde a été volée par un peintre en bâtiment italien qui est arrivé au Louvre. Puis il a vu la Joconde. C'était pas ce tableau-là qu'il voulait voler, mais voilà. Il est parti avec et pendant deux ou trois ans, je ne sais plus, la Joconde a disparu. Il s'est passé un phénomène tout à fait intéressant. À l'époque, la Joconde n'est pas le chef-d'œuvre du Louvre. Hein, c'est plutôt un Raphaël, la Fornarina, je crois. Donc ça fait les gros titres, vol au Louvre, etc. Et les gens sont venus en masse voir là où la Joconde était accrochée et là où elle n'était plus. Ils sont venus voir la disparition d'un chef-d'œuvre. Et quand les gens venaient voir le clou où était accroché le tableau de la Joconde, en fait, ils prenaient des notes. Même Kafka et Max Brod, qui étaient de passage à Paris, sont allés voir le clou. Et ça, c'est un phénomène tout à fait fabuleux. C'est-à-dire que pour tout le monde, l'art dans un musée voilà, a une dimension qui fait qu'on va accéder à quelque chose en voyant tous les grands chefs-d'œuvre qui sont dans les musées. Mais là où l'art disparaît, en fait, ça libère d'un seul coup l'imaginaire de la disparition. Donc l'art nous incite à voir des choses et voilà, guide notre regard, nous donne accès à certaines beautés, vérités ou autres. Mais c'est aussi pour le regardeur une expérience de où son regard et son intelligence et sa sensibilité sont capturés. C'est une espèce d'ambivalence, voilà, que moi je vis cette ambivalence en tous les cas totalement.
Merci à Amandine Royer, Grégoire Bouillet, Roxana Azimi, Didier Fusilier, Annabelle Ténez, Adrien Goetz, Saskia Cousin, Émilie Girard, Camille Brooke et Talia Haussmann. Documentation Anne-Lise Signoret, Archivina Émilie Lacot, prise de son Laurent César, Marc Garvenès, Éric Audra, Yvan Charby, Jean-Baptiste Etchepar-Bord et Nicolas Mathias. Mixage Valérie Lavalard, chargée de programme Marie-Vonna Bolivier et Anaï Morales, coordination Emmanuel Laurentin. C'était Musée, la réinvention permanente. Premier épisode, visiter les musées à l'ère d'Instagram. Un documentaire de Christelle Le Polothèque, réalisé par Agnès Catou. Prochain épisode, un héritage en révolution.
Ok, et où est-ce qu'il y a des toilettes?
Il y en a un
sur
l'exposition.
Ah oui, d'accord.
C'est là, c'est vraiment à gauche, vous allez passer.
D'accord, ok, super, merci.